Allez-y. Non, une seconde, je compte. Alors, 3, 4.
On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Kruger avec Franz Oberkampf et Bruno Verjus.
Sortez.
Par Noé, père de la vigne, par Bacchus, dieu du vin, par Saint-Vincent, patron des vignerons. Nous sommes à table aujourd'hui avec Franz Oberkampf, notre cuisinière voyageuse.
Bonjour.
Avec Bruno Verjus, le créateur du site Food Intelligence.
Bonjour.
Et avec Jacques Lardière. Alors, je pense que le fait d'invoquer ou d'évoquer Saint-Vincent, ça vous parle parce que c'est votre patron.
Oui, tout à fait. Oui, ah. Tout à fait. Enfin, j'en ai un plus immédiat, mais celui-ci est le plus spirituel, forcément.
Donc vous êtes vigneron, vous êtes maître de chais en Bourgogne, hein, dans des territoires absolument magnifiques, dans des terroirs tellement incroyables qu'il y en a 562.
Oui, on compte 600 appellations. Ouais. Et c'est ce qui est un peu la notion pour les Bourguignons de terroir.
Parce que l'an dernier, Jean-Robert Pitt était venu nous parler des climats de Bourgogne, mais vous pouvez mettre un petit peu les mains dans la vigne, parce que c'est la saison, on est en pleine vendange. Alors comment s'annonce cette vendange, Jacques Lardière ?
Il s'avère que finalement, ce qui nous reste, à travers les aléas qui se sont produits dans le cycle végétatif, ce qui nous reste pendu sur la vigne et parfois qui a une drôle de tête, les choses semblent plutôt bien. Et je crois qu'on est capable, en très très petite quantité malheureusement, à produire des choses de grande qualité. Vous savez quand même, la vigne est arrivée au niveau Bourgogne, hein, par l'Oural et aussi par l'Atlantique. Et il a migré forcément des cépages très différents à l'époque, mais qui sont quand même intéressants. Et il y a toujours des choses qui sont très près de ce que nous connaissons. Quand on est capable, en appliquant les règles de culture et des règles de vinification, on est capable de faire des vins assez étonnants. Quand on veut faire la plongée et accepter le lieu comme étant l'élément le plus représentatif du produit qu'on va réaliser, eh bien, c'est très étonnant. C'est très, très étonnant.
Mais Jacques Lardière, aujourd'hui, il y a une mode du vin qui est mondialisée. Il y a un goût du vin aussi qui s'est un petit peu mondialisé. Comment vous revenez aux racines, au terroir, au climat bourguignon ?
Oh, mais je crois très honnêtement que la Bourgogne est un exemple justement d'une région qui n'a jamais perdu son âme. On a peut-être un peu déraillé gentiment dans les années 60 et 70, quand il y avait eu cette panique, si vous voulez, après le phylloxéra et des plantations assez rapides et moins intéressante et moins subtile, parce que les gens étaient pris en défaut pour des replantations. Et donc, on a traversé une période un peu difficile. Il y a eu aussi une appétence de revenus plus facile à avoir, puisque la demande était très importante, aussi bien de l'Angleterre que comme des États-Unis, qui ont tiré quelque chose d'extraordinaire, si vous voulez, par rapport à ces monocépages. Le chardonnay était quelque chose d'absolument impressionnant, puisque tout le monde voulait en produire, parce que c'est quand même un cépage qui est capable d'avoir une telle ouverture aromatique que c'est fondamental. Et le Pinot, bien sûr, qui est aussi celui qui est le plus mystique quasiment des cépages. Et il a fallu que la vigne, bien sûr, se réintroduise, se réapproprie le sol, puisque vous savez bien qu'il faut quand même à un moment donné que les racines viennent embrasser la roche-mère au point qu'elle puisse accepter, à travers ce léchage, de déminéraliser. Donc, de donner l'acte de vie après à ce qui sera au-dessus du sol. Donc, ce qui sera fécondé par la lumière et ce qui donnera l'élévation dont vous parliez.
Exprimer les sols.
Eh bien, de toute façon, l'appellation d'origine contrôlée, c'est ça. Le cépage, si vous avez, puisqu'on a plus de 110 variétés de pinot noir, mais il y a quand même dans ces variétés quelques-unes qui sont bien meilleures que d'autres. Si vous voulez, ce matériel végétal, comme on l'appelle, est très important. Et c'est bien pour ça que beaucoup de Bourguignons, actuellement, veulent refaire une collection pour essayer de replanter une vérité. Parce que, si vous voulez, en fait, je veux dire par là que replantant un cépage, un variétal de qualité, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va s'exprimer beaucoup mieux. Pourquoi ? Parce que sa sensibilité de relarguer un champ moléculaire est beaucoup plus grand. Et plus vous le mettez sur un sol qui sera actif et qui va se déminéraliser et qui aura une puissance de sol importante, ce qu'on appelle l'effet tellurique, c'est-à-dire l'effet élévateur de l'énergie qui sera libérée du sol, fait que ce qui est en dessous vient au-dessus. Et c'est à partir de là que vous dynamisez des molécules dans une spirale et qui vous donne cette variété. Et cette variété, elle est extraordinaire. Donc vous êtes au-delà du cépage. Et le process de vinification, ce process où vous avez l'anabolisme, le catabolisme, eh bien, beaucoup de gens s'arrêtent de temps en temps simplement parce qu'ils pensent que l'expression du pinot noir est suffisante. Alors que quand on est dans une région comme nous, ce n'est pas du tout ça. D'ailleurs, nous, on ne parle pas pinot noir. Les jeunes générations parlent pinot, mais on ne parlait jamais, il y a encore quelques années avant, allez, les années 85, 80, 85, on ne parlait jamais de ça, comme on ne parlait jamais de chardonnay. On parlait du nom, on nommait même les lieux, mais surtout les climats et forcément les appellations. Si on travaille bien, si on respecte bien le lieu, si aussi bien au niveau de la vigne, au niveau du champ libérateur de la vinification, normalement, on retrouvera un placement moléculaire qui fait qu'on a une reconnaissance d'une typicité et d'un bien-être. Puisque les gens peuvent aimer telle ou telle partie de la Bourgogne, ça les regarde, on est tellement unique. Mais l'intérêt, c'est ça.
D'un cœur chaud et reconnaissant, je m'en vais célébrer la cave. L'escalier est déglissant, pour un buveur c'est chose grave. Des églises du vieux château rappelant les salles obscures. Sa voûte est pleine de cristaux, de champignons, de moisissures.
Jacques Lardière, qu'est-ce qui a changé à la fin des années 80 quand on a commencé à raisonner en termes de culture et de vinification raisonnée? Qu'est-ce que ça veut dire une culture traditionnelle, une culture raisonnée, une culture bio?
Non, c'est très, intéressant.
Est-ce qu'on peut vraiment faire du vin bio qui se garde, qui se conserve longtemps, qui s'exporte?
Oui, ça, je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Il ne faut pas confondre ce qu'est le vin bio avec éventuellement des vins sans soufre, ce qui serait quand même une notion un peu différente. Ce qui a été très important pour moi, que j'ai vraiment observé, c'est que le millésime 85, qui a été un millésime que les gens n'ont pas vu arriver. Ils ont vinifié, leur raisin était pas mal, c'était un peu froid, et il s'est révélé au printemps suivant, comme arrive avec les grands millésimes. Et on s'est aperçu que naturellement, la mémoire des lieux était aussi évidente et aussi prégnante, aussi présente. Et que l'homme, en fait, n'avait pas grand-chose à dire dans cette affaire-là. Et comme on avait accusé depuis longtemps que les sols étaient abîmés par des apports donc d'engrais chimiques, un peu chimiques, bien sûr.
Beaucoup,
puisque
même.
La chimie, beaucoup, bien sûr, oui, tout à fait. Mais vous savez, la nature est quand même pas si mal faite que ça. Donc dès qu'il y a des retraits, il y a des apports qui ne sont plus faits, incontestablement, la vie veut toujours nettoyer. Et donc à partir de 73-74, quand les rendements ont grossi de 15-20%, on avait le PLC, ce qu'on appelait les DPLC, c'est-à-dire qu'on pouvait dépasser le rendement qui était donné, ça a été un peu fou. Ça a été la problématique des années 70. Et je ne pense pas qu'on puisse franchement accuser le viticulteur. Et des gens qui avaient aussi, pendant des années, souffert de ces récoltes, qui avaient du mal à gagner leur vie aussi, vous pensez bien que ça paraissait l'idéal. Et quand les premiers désherbants sont arrivés, les premières protections très fortes concernant l'oïdium, le mildiou, vous imaginez bien que tout le monde a tendu les bras. Et c'était miraculeux par rapport au désastre qu'il y avait, puisqu'on avait à cette époque-là qu'une chose importante, c'était de se dire que quand on avait le vent du nord, si vous voulez, sur septembre, donc qui était froid, qui ramenait le froid et tout, ce qu'on appelait la mer nourricière, à partir de là, on était susceptible de faire une récolte, donc de gagner un peu d'argent et puis de vivre, quoi, tout simplement. Alors, vous savez bien que ça prend toujours au moins une génération pour intervenir. Et il faut faire très attention quand la technique devient aussi la génératrice et le chemin à suivre, quoi, coûte que coûte. Alors, bien sûr qu'il faille comprendre ce qui se passe pour éviter de faire des mauvais vins, incontestablement.
Alors, sûr. Comment on fait un bon vin ?
Mais moi, je crois qu'un bon vin, enfin un bon vin, ça se fait très naturellement, si vous voulez. D'abord, il faut avoir une belle culture de vigne, déjà, incontestablement, et avoir des rendements raisonnables.
On peut dire quand même que vous posez le pied, vous mettez la main entre Clos Vougeot, Chambolle, enfin, c'est dans, dans des terres qui ne sont pas désagréables.
Oui, vous avez raison. Oui, oui, mais incontestablement, puisque nous, on est de Marsannay, si vous voulez, on est propriétaire de Marsannay jusqu'à Centenay. Et là, on a donc plus de 100 hectares de vignes. On connaît un peu le vignoble, bien sûr. Et dans ces 100 hectares, on a aussi des vins conçus en biodynamie, en lutte raisonnée, puisqu'on a toujours été en lutte raisonnée, toujours réfléchissant sur ce qu'on va faire et pourquoi on le fait.
Bon. Et pour combien de temps ?
Et pour combien de temps ?
Il y a cette idée du temps aussi qui est...
Oui, mais nous, si vous voulez, la vigne étant pérenne, notre idée est de comprendre que de toute façon, ce que nous faisons, le passage dans lequel... On travaille. Moi, j'ai travaillé chez Jadot. Ça fait 42 ans que je travaille chez Jadot. Ça fait que 42 ans. Mais ce n'est pas beaucoup, hein, en fait, si vous voulez, pour essayer de vraiment comprendre ce qu'il en est. Par contre, ce que j'ai essayé de faire, c'est de rester dans la Bourgogne pour rester dans le sillon de la Bourgogne, de ne pas aller voir ce qui se passe ailleurs, en soi-disant, parce qu'on s'améliore. Je n'y crois pas. Pour des vins d'appellation comme les Bourgognes, qui ont cette subtilité très fine, je crois qu'au contraire, il faut rester dans l'orthofréquence de chacun des vins, de façon à bien comprendre ce que c'est qu'une appellation, est-ce que c'est qu'un climat, est-ce que c'est qu'une vinification, pour révéler ça. Donc, pour répondre à votre question, on travaille bien la vigne avec des rendements. Si on peut rester entre 30 et 40 hectos, à mon avis, c'est bien. Vous savez, moi, quand je suis arrivé en Bourgogne, hein, les grands crus, on était pour certains 27-28. Hein. Donc, et c'était qu'en 70. C'est pas si vieux. Pour nous, le choix, ça a toujours été de déterminer que la vinification, qui pour moi a été l'élément très important à partir du XVIIIe siècle, quand on a voulu érafler les raisins et les faire macérer un peu, de façon à extraire et digérer des tanins, ça me paraissait de bon aloi, ça me paraissait cohérent, parce qu'il faut bien passer par cet oubli. Il faut qu'à un moment donné, le cépage s'efface pour laisser parler l'endroit. Et il y a des lieux bénis en Bourgogne qui le sont, et c'est très injuste. La terre et les endroits, les terroirs sont très injustes. Les terrains, les climats, c'est très très injuste. Parce que vous pouvez être là, vous êtes sur la Roma des Conti, et puis vous ne parlez pas plus loin, et vous n'êtes qu'un village. C'est très injuste, mais c'est ainsi. Et le génie d'une région, c'est celle-ci. Et le génie des hommes, c'est de l'avoir compris. Mais c'est quelque chose qui marche effectivement si vous laissez un process se faire entièrement. Et il faut être assez couillu pour ça.
Ce n'est pas sans utilité qu'en ma cave en tout temps je rôde. C'est une glacière l'été, l'hiver c'est une serre chaude. Dans le caveau le plus discret, si quelque vérité sommeille, en voulant la vider d'un trait, n'allez pas casser la bouteille. Dans la cave, il fait bon chanter, sa bouteille résonne. Il fait bien meilleur goûter les bons vins que nous donne le rouge automne, le rouge automne, le rouge automne, le rouge automne, le rouge automne.
France, qu'est-ce que vous nous racontez comme histoire ?
Je vais vous expliquer, selon la mythologie perse, l'origine de la consommation du vin. Il y avait un chat qui s'appelait Jamshid et qui chassait dans les bois et qui croise un serpent en train d'étrangler un magnifique oiseau. Et là, il bande son arc, il tue le serpent et il libère l'oiseau. Et l'oiseau, pour le remercier, lui offre une graine. Il va planter cette graine dans son jardin de son palais magnifique et une vigne va pousser. Et bientôt, cette vigne va se charger de grosses grappes qu'on va stocker dans des jarres. Et très vite, on s'aperçoit qu'avec la fermentation, y a un liquide qui commence à mousser dans la jarre et puis ça sent une odeur bizarre. Alors on a peur que ce soit toxique et on met les jarres de côté. Et un jour, une femme qui faisait partie du harem de Jamshid a envie de perdre la vie, a envie de se donner la mort. Et elle va boire une des jarres qui était mise de côté. Et au lieu de mourir, elle va reprendre goût à la vie et elle va trouver ce breuvage délicieux. Du coup, elle va aller le faire goûter au chat qui va lui redonner les faveurs à la cour. Et depuis ce temps-là, Jamshid a décrété que toutes les vignes de Persépolis seront dorénavant consacrées à la fabrication du vin. Et en référence à cette jolie légende, le vin en Iran est encore parfois appelé Zeher-i-Hos, ce qui veut dire le poison agréable.
Vous connaissez cette légende de Jacques Lartier ?
Non, moi je la connaissais pas, mais je trouve ça merveilleux. Et c'est surtout le fait d'avoir bu la jarre entière, je l'envie, hein, et c'est super. Par contre, je suis tout à fait d'accord sur ce que peut engendrer le vin dans la bonne humeur et même dans un équilibre psychique et cellulaire de l'homme. C'est le meilleur aliment qui existe. Il n'y a pas un autre aliment qui existe à ce niveau de qualité. Vous n'avez rien qui équivaut à ça. Il faut le boire en quantité assez raisonnable. Pas trop raisonnable parce qu'on s'ennuie, mais assez raisonnable. Et c'est beaucoup moins dangereux que beaucoup de nourriture qu'on nous produit aujourd'hui, bien sûr.
Jacques Lardière, est-ce que le fait aujourd'hui d'avoir des Chinois de Macao qui achètent le château Gevrey-Chambertin pour le vin de Bourgogne, est-ce que ça va modifier le goût du vin ?
Ça, c'est une question très très importante, mais c'est une question, si vous voulez, qui revient cycliquement, puisque on a connu ça dans les années 70, on l'a connu dans les fins des années 80, 90 aussi, avec les crises qu'on a connues, parce que moi j'ai connu quand même au moins trois crises hein, de dans les vins.
Mais parce que objectivement, il y a des modes.
Oui, mais je comprends ce que vous voulez dire. Non, je crois que le vin a quelque chose. Enfin, la survie en plus pour une région comme nous. On est quand même une petite région. En Bourgogne, on représente rien dans la production mondiale, c'est rien. Mais par contre, c'est la diversité, sa puissance, si vous voulez, de contact. Quand on boit, qu'on est touché dans notre grand sympathique, là, au niveau de la rare, ça veut dire qu'on est juste. Et il n'y a pas beaucoup de régions qui vous touchent aussi intimement et aussi profondément. C'est bien pour ça qu'on aime les Bourgognes et que les gens les cherchent, même s'ils n'ont pas conscience du pourquoi ils les cherchent. Mais donc, nous, par exemple, le Jadot, on a fait le choix que de toute façon, on voulait être Bourgogne-Bourgogne. C'est pour ça qu'on s'est toujours dit traditionnel. Ce mot n'est pas un gros mot pour nous. Et ce n'est pas le côté has-been, le côté vieillot, pas du tout. Le problème, il faut faire très très attention quand on bouge, parce que quand vous vinifiez quelque chose, vous bougez sur un spectre aromatique, si vous voulez. Et c'est énorme, et ce spectre aromatique, c'est un jet énergétique. Et si vous ne l'avez pas, et si vous ne le replacez pas où il doit être placé, à partir de là, vous avez une perte d'identité, une perte de reconnaissance, même de beaucoup d'individus, même sans que l'individu sache le pourquoi il trouve que le vin est moyen. Parce que notre inconscient collectif, il est tellement énorme depuis et généré depuis tellement de siècles, si vous voulez, que quelqu'un sait ce qu'est un pommard sans avoir bu un pommard, si vous voulez, ou un Gevrey-Chambertin sans avoir bu un Gevrey-Chambertin. Alors, et ça, c'est magique.
On ferme les yeux, faites-nous déguster un Gevrey-Chambertin ou un pommard et allons-y, nous fermons les yeux.
C'est très compliqué.
C'est de la radio.
Ça, c'est de la radio, oui, ça, je comprends très bien. D'ailleurs, ça tombe bien, je n'ai pas de verre. Autant on ne le verrait pas, j'aurais honte de faire quelque chose comme ça sans verre. Non, mais si vous voulez, si vous fermez les yeux, alors vous fermez les yeux, il faut se mettre en position. Effectivement, vous avez raison. Donc, vous fermez les yeux et à partir de là, donc, vous voyez un joli verre d'abord. Hein, un verre suffisamment fait, pas comme la plupart des verres qui sont mal foutus et on se demande pourquoi ils sont faits ou par des gens un peu malades. Donc, vous faites tourner le vin, vous le mettez en dynamisation. C'est pour ça que quand vous tournez le verre, vous le dynamisez. Et si vous le dynamisez de gauche à droite, il vous permettra d'avoir quelque chose qui vient vers le sol, autrement quelque chose vers les racines ou quelque chose qui montera. Donc vous ferez comme vous voudrez. Mais vous le prenez, vous le laissez, vous le dynamisez un peu de façon que les molécules s'échauffent légèrement et remontent dans la spirale. Vous l'aidez, puisque la plupart du temps, on n'a pas le vin assez mature pour avoir ce jet idéal tout de suite. Et il va se mettre en marche, et là, vous allez le prendre, et vous allez recevoir une information en essayant surtout de jamais penser. Juste recevoir et goûter ce que vous avez par le nez. Et ça, vous respirez fort et vous vous laissez aller, vous laissez passer.
Qu'est-ce que vous sentez, là, justement là ?
Eh bien là, à ce moment-là, si vous voulez, si vous êtes sur un Gevrey-Chambertin qui est beau, à partir de là, vous allez avoir de l'aubier,
de lobiers de cerises. Et puis de cerises, on pourrait presque les nommer. Et vous allez avoir de la réglisse naturelle qui ne devient pas du tout du fût ou quoi que ce soit, qui est liée à cette déminéralisation du sol et qui nous donne ces éléments-là. Et à partir de là, bien sûr, vous avez la multitude de ce que vous donnera le Pinot Noir sur la bassine de terre et d'énergie de la Bourgogne. Donc à partir de là, c'est les notions que vous aurez de ce côté cerisé et de ce côté justement réglissé, c'est gevré. Vous n'aurez jamais ça sur Chambolle ni sur Vosne-Romanée.
Sur Vosne-Romanée, on aura quoi justement?
Sur Vosne-Romanée, là, ça, si vous êtes sur Vosne-Romanée, vous avez beaucoup plus un côté fumé, un côté organique, un côté protéine. Et c'est extraordinaire ce côté fumé, cuit, mais c'est pas péjoratif mon cuit, hein. C'est quand le cuit, c'est quand il commence, vous savez, quand vous mettez une viande dans une poêle et qu'il commence à avoir le crêpes, là, ce côté protéine qui commence à s'ouvrir autrement et à se modifier, et ça c'est Vosne-Romanée, et c'est extraordinaire Vosne-Romanée. Mais normalement, vous devriez avoir à chaque fois la minéralité. Tout le temps. Et ce qu'on ne trouve pas malheureusement sur quelques Bourgognes, parce que les gens arrêtent le process de vinification trop tôt. Et à partir de là, ils n'osent pas mortifier ce qui a été créé. Il faut une petite mort pour libérer le vin de son cépage, de façon à lui donner l'authentique place d'où il vient.
Et comment on la finalise justement, cette petite mort?
Cette mort, c'est un process normal de vinification, si vous voulez. Vous avez l'anabolisme, là, le côté créatif, où quand vous avez votre raisin et vous avez fermentation, que vous avez une biomasse qui se met en route, qui se met à monter justement dans cette spirale. Vous voyez bien les cuves, comment elles sont, la forme des cuves. Donc elles arrondissent, elles fêtent, parce qu'elles vont dégager le subtil pour laisser tomber l'impur, le moins mûr, le moins intéressant. Et à partir de là, elle va chercher à créer des macromolécules, donc organiques très fortes, qui sont intéressantes. Mais c'est comme ça, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui arrêtent là, parce que c'est beaucoup plus simple. D'abord, vous avez un spectre aromatique beaucoup moins élevé, avec des masses plus impressionnantes sur la bouche. Vous avez des sensations donc de masse sur la bouche. Si
ça,
vous
c'est la mode.
De densité. C'est toujours la mode un peu partout. Ouais. Parce que, si vous voulez, il y a des avantages. C'est parce qu'à partir de là, ce sont des molécules qui sont saturées. Et cette molécule étant saturée, si vous voulez, vous pouvez les mettre en bouteille, vous pouvez les expédier, vous pouvez les mettre dans le coffre de votre voiture, amener chercher vos amis à 50 km le soir même. Vous n'avez aucun problème si vous les ouvrez. Vous n'avez aucun souci avec ce genre de vin. La différence, c'est que quand vous avez le catabolisme, il faut accepter que ces molécules soient éclatées. Et de 200 arômes, vous allez passer à 4000. Vous voyez la grande différence. Donc, quand vous allez ouvrir le spectre aromatique, il va s'ouvrir. J'ai l'habitude, pour essayer d'exprimer ce que représentent ces pics aromatiques, c'est comme, si vous voulez, les guirlandes que vous avez autour d'un arbre à Noël, quand vous êtes au-dessus des sapins et autres. Eh bien, si toutes les lampes fonctionnent, ça vous donne l'éthérique de l'arbre, ça vous donne une dimension de l'arbre autrement. Vous le voyez autrement et vous pouvez presque rentrer dans l'arbre, le toucher autrement, même si vous êtes loin. Et sur le vin, c'est exactement pareil. Exactement pareil. Et ça, c'est important. Et c'est parce que vous avez cette vaporisation moléculaire que vous pouvez, à partir de là, nommer des endroits bien plus facilement. Des lieux, des climats, bien sûr.
Bruno Verjus. Au pied des vignes, qu'est-ce qu'il faut ramasser ?
Les grappillons. Les grappillons, c'est quoi ? Les grappillons, c'est les petites grappes de raisins de la seconde génération, en fait. Celles qui ne parviendront jamais à maturité, d'une certaine façon, ou rarement à maturité complète. Mais elles ont un avantage qui est lié, évidemment, à leurs défauts. C'est qu'elles offrent un jus brillant d'acidité. Et ce jus-là, ça s'appelle le verjus.
Voilà. Oui, voilà,
c'était une façon de vous faire rire.
Mais absolument.
Alors, on est en octobre, on est fin septembre, là, on va arriver en octobre. Et moi, octobre, pour moi, c'est un peu le nouveau printemps, finalement, avant l'hiver. Et dans les champs, on a ce qu'on appelle l'herbe de regain. Et cette herbe de regain, elle est intéressante parce qu'elle est extrêmement riche. Elle amène aussi beaucoup d'acidité. On revient à notre acidité du verjus. Et ce lait-là, par les grosses mamans nourricières qu'il y a dans les champs, nourrit des petits veaux. Et moi, j'avais envie de faire cet hommage à l'automne, finalement, en mariant un beau carré de veau. Alors, dans une cocotte en fonte, on va déposer un peu de matière grasse. Alors, idéalement, un morceau de gras de rognon de veau, évidemment, ou un morceau même du gras du veau, comme ça. On va ajouter une petite gousse d'ail qu'on aura, vous savez, préalablement écrasée du plat du couteau. Évidemment, elle est avec la peau, la gousse d'ail. Une petite branche de thym. On va saler très précautionneusement notre carré de veau, sel fin, vraiment sur toutes les faces, sur l'os, un petit peu partout. Et puis, on va commencer à le rôtir à feu vif dans la cocotte, de façon à colorer, à dorer toutes les faces du carré. En fait, on dit en cuisinier qu'on va le fermer, c'est-à-dire qu'en fait, on va coaguler les protéines cotériser, de façon à ce que les jus du veau restent dans la pièce. C'est que le veau est probablement une des choses, des viandes les plus compliquées à bien rôtir. Donc c'est aussi, d'abord et avant tout, cette recette, une leçon de rôtissage. Après, c'est quoi? Après, je dirais que c'est presque terminé, parce qu'on va placer notre carré de veau sur l'os, comme ça, dans la cocotte, et on va laisser les os du carré devenir la résistance chauffante pour aider à coaguler les protéines de la viande. On n'a pas mis une chapeau de la cocotte, hein, on la laisse ouverte, le carré sur l'os, et on le laisse aller en température comme ça pendant 45 minutes, presque une heure, très très tranquillement. Évidemment, on a l'œil en permanence ou presque sur la cocotte, et on arrose avec le gras et le jus qui se forment petit à petit, de façon à nourrir cette chair. Le veau est presque cuit, on le touche, vous savez, et on se rend compte que ça reste assez souple parce qu'il faut le servir tout à fait rosé, en tout cas dans la partie la plus centrale. Les parties les plus proches du feu, elles seront un peu plus cuites. Il y en aura pour tous les goûts, comme on dit, et j'aime beaucoup ça. Et ce qui est important d'ailleurs, c'est qu'à la découpe, eh bien, on essaiera de mettre des morceaux un peu différents, ce carré de veau dans l'assiette, de façon à ce qu'on reste dans cette biodiversité. Après, la recette, elle est terminée, hein. On va poser notre carré de veau dans une assiette, la glisser dans un four réglé à 50 degrés pour le garder juste à température. On va remettre un petit peu de feu sur notre cocotte. Et là, les grappillons que j'ai ramassés dans vos vignes, Jacques Lardière, je vais donc récupérer les petits raisins très très verts, hein, c'est presque fluorescent, très dur, très dense. Je vais les jeter comme ça dans ma cocotte. Ils vont me servir à déglacer mes sucs de cuisson. Ils vont cuire un petit peu. Hors feu, je vais fouetter ce jus avec quelques noix de beurre et puis trancher ma pièce de veau, servir. Et puis... je me suis dit, tiens, ce qui serait intéressant, autre hommage à l'acidité, on pourrait accompagner ce veau d'une purée de carottes. C'est l'automne, on est dans ces couleurs de coucher de soleil. Purée de carottes à l'orange pour retrouver justement zeste et jus d'orange pour assaisonner la purée de carottes et retrouver cet esprit d'acidité comme ça qui s'y est à l'automne.
Ennemi de Bacchus, rentrez dans le devoir. Vos esprits s'en font trop à croire. Allez, vieux fou, allez apprendre à boire. On est savants.
C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Crugère avec France Oberkampf et Bruno Verjus. Elle était préparée par Romain Bec de Lièvre. La prise de son est de Michel Mestre et la réalisation de Ghislaine David. Vous pouvez la réécouter pendant 1000 jours et 1000 nuits sur le site de France Culture et la podcaster pendant un an. Tout de suite, le journal sur France Culture.